Bonjour, je suis Julie Le Gall.
Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
Le wholesale n'aura plus de secret pour vous.
Dans cet épisode, nous sommes sur le Who's Next, premier salon de prêt-à-porter de l'année 2022. La Fédération Nationale de l'Habillement nous a invités sur son stand pour rencontrer ses membres et nous expliquer son rôle. Excellente écoute! Bonjour Stéphane, bienvenue sur Wholesale is not dead. Comment allez-vous?
Bonjour Julie, bonjour Florent. Très bien, très très bien, je vous remercie.
Stéphane, nous sommes en janvier 2022 sur le salon du Who's Next, sur le stand de la Fédération Nationale de l'Habillement. Vous êtes vice-président de la région PACA et le gérant de 2 ou 3 points de vente en France, entre Saint-Rémy-de-Provence et Paris.
Tout à fait.
Vous allez nous donner votre vision du marché aujourd'hui, mais pour commencer, je vous propose de vous présenter.
Alors, je suis donc Stéphane Corcos, j'ai 58 ans, j'évolue dans le secteur du textile depuis mes 20 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai différentes activités à la fois de distribution, je dirais même de fabrication, et puis dans les années 80-90, j'ai compris que toutes les marques avaient des problématiques de stock et souvent de surstock, et à la fois de distribution à protéger. Donc il fallait gérer ce double enjeu, parfois contradictoire. Et j'étais un des premiers sur le marché à imaginer, à l'époque on appelait ça des ventes de presse, ce qu'on appelle aujourd'hui des ventes privées. Donc je louais des locaux ponctuellement à Paris et en province. Et je me rapprochais de marques qui avaient un potentiel et qui avaient des stocks afin d'organiser des ventes privées qui duraient 5 à 6 jours. Le concept s'est révélé vraiment très très percutant. On a fait de très gros chiffres d'affaires très très vite avec beaucoup de grandes marques. À l'époque, c'était Blanc Bleu, Ben Simon, Chantal Thomas, on a fait Hugo Boss, etc. Et donc j'ai ensuite pérennisé le concept en prenant des locaux dans Paris qui faisaient 800 mètres carrés, rue de Lisbonne dans le 8e, où je faisais des ventes toutes les semaines, de très très grosses ventes. On est devenu un très très gros une très très grosse entité de vente privée.
Donc ça a été... Comment s'appelait, excusez-moi, votre concept?
Ça s'appelait Showroom 30, et parce que c'était 30 rue de Lisbonne, et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. En parallèle, je dirais que je me suis installé en famille avec mon épouse et mes trois filles à Saint-Rémy-de-Provence, et donc je faisais des allers-retours entre Paris et Saint-Rémy. On a monté un hôtel à Saint-Rémy-de-Provence qui était formidable, qui s'appelle La Maison du Village, qui existe toujours, un très joli lieu, mon épouse étant décoratrice. Et à un moment donné, j'étais un peu écartelé entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et donc, j'ai décidé de céder mon showroom dans Paris et de le dupliquer en province, fort du principe que la province était totalement vierge du point de vue des outlets. On est à la fin des années 90, hein. Outlets, etc. Internet n'était pas encore aussi... n'existait pas, on va dire, les ventes en ligne n'existaient pas, il n'y avait pas encore le branchement ADSL, etc. Et donc les foyers n'étaient pas tous reconnectés à la vente en ligne, donc il n'y avait pas encore tout ce qui s'est passé après. Alors d'ailleurs, j'étais très copain avec tous les gens qui ensuite montaient venteprivée.com, showroomprivé.com, c'est eux à qui j'ai cédé mon local physique rue de Lisbonne.
C'est là qu'ils ont commencé.
Et c'est là qu'ils ont commencé en partant du physique, et ensuite ils se sont développés sur Internet. Et moi je suis resté, j'ai laissé passer le train des ventes en ligne, on va dire, à ce moment-là, et j'ai dupliqué mon concept à Saint-Rémy-de-Provence. Donc c'est un magasin que j'ai donc actuellement, toujours, depuis donc 2004. Il fait 400 mètres carrés. C'est un très bel espace en plein centre-ville, et ça a marché très fort tout de suite. C'est-à-dire j'ai vraiment ramené tout mon savoir-faire, toutes mes connexions parisiennes, etc., toutes les marques qui me suivaient déjà dans Paris, et on a fait des ventes avec énormément de marques, et on les fait toujours d'ailleurs, même si le concept a un petit peu évolué depuis, parce que les ventes en ligne se sont bien sûr développées, le concept de vente privée a été un petit peu galvaudé aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est le mot n'a plus la même magie qu'il a pu avoir il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui ça s'appelle l'espace Mirabeau. Et c'est un concept un peu hybride, c'est-à-dire qu'on a à la fois des nouvelles collections, des anciennes collections, parce que souvent les ventes privées, on travaille sur des collections N-1, on a de l'homme, on a de la femme, on a un peu de déco, on a des prototypes de collections, donc on travaille beaucoup avec les agents, beaucoup de boutiques multimarques à l'échelle de la France se retrouvent aussi avec des stocks, donc elles nous confient leurs stocks, enfin voilà, ça c'est le concept historique, on va dire, que j'exploite. En parallèle, mon épouse qui est décoratrice, comme je vous l'ai dit, m'a proposé de créer un concept totalement nouveau par rapport à mon concept outlet historique qui s'appelle Pieds Nus. Et donc un esprit de marque chic et décontracté pour femmes dans l'esprit du voyage bohème chic un peu. Et donc on a ouvert et on a fait un carton tout de suite, ça a très très bien marché. Donc on a dupliqué ce concept 2 ans après à Saint-Rémy où on a également ouvert Pieds Nus à Saint-Rémy.
Comment vous travaillez et quelles sont les marques que vous référencez chez Pieds Nus?
Alors, chez Pieds Nus, on a beaucoup de marques, essentiellement pas mal de marques italiennes, espagnoles. Alors, on a des marques phares comme APC, Forte Forte, Isabelle Marant. Bon, mais mon épouse recherche essentiellement, je dis pas des jeunes créateurs, c'est pas tout à fait le mot, mais des marques qui ont vraiment une identité que mon épouse sélectionne en s'appuyant énormément sur l'aspect matière, couleur, qualité. Et bien sûr, elle n'achète rien qui n'est pas fabriqué selon une certaine éthique, en Europe, etc. Voilà. Et moi, je peux dire aussi que finalement, dans mon concept de l'espace Mirabeau, dans la mesure où je recycle finalement des stocks N-1, j'ai un peu le sentiment de redonner une deuxième vie à des marchandises qui ont déjà été fabriquées. Et donc tout en accompagnant mes fournisseurs à déstocker, en permettant à une clientèle d'avoir accès à des marques à des prix réduits, toujours dans le respect de la distribution et de la géographie, puisque je travaille en partenariat avec les marques qui me confient des stocks. Donc voilà, c'est pas de la vente parallèle sauvage.
Voilà. Il y a des marques françaises qui font des gros volumes quand même. Oui, c'est principalement français.
On travaille beaucoup de marques françaises, essentiellement des marques françaises, des très très jolies marques.
Et vous allez les chercher sur les salons ou dans les showrooms, comme achetiez les collections normales en proposant vos services d'outlet, du coup. Alors ils viennent à vous.
Alors en fait, moi maintenant, j'ai quand même depuis une trentaine d'années beaucoup un carnet d'adresses personnelles et une fidélité avec certains fournisseurs avec lesquels on travaille vraiment main dans la main depuis toujours. Donc pour moi, le salon, c'est un moment où je me promène et je dis bonjour. Voilà.
Et ça se fait naturellement.
Voilà, exactement. Et il y a des « Ah Stéphane, tu m'as pas appelé, il faudrait qu'on se rappelle, là j'ai un stock, etc. Ce serait bien. » Ou alors « Bon, bah, tout s'est bien passé l'hiver dernier, on se rappelle dans 15 jours pour l'été prochain, etc. etc. » Donc les choses se font maintenant très très naturellement. Sur l'espace Mirabeau, je sais pas vraiment…
au contraire, en recherche.
Parce que je dois gérer un espace, je dois maintenir des taux de sortie importants parce que j'ai beaucoup… de partenariat avec, entre guillemets, du conditionnel, à savoir on me confie les stocks, je paye ce que je vends.
C'est surtout comme ça ?
Et je rends à 60%, on va dire. Voilà, tout à fait. Je travaille aussi, j'achète aussi des collections à des agents. Donc là, on a vraiment la collection de l'année.
Ah, vous achetez les collections à des agents tout à fait. Tout en 38,
voilà,
tout en
37. Exactement. Voilà, j'ai qu'une taille. Mais nos consommateurs sont très contents parce que là, pour le coup, on a la collection de la saison en cours, au même moment que les détaillants, mais bien sûr, on en a qu'une
bien en avance.
Voilà, mais les agents sont contents parce que souvent, ils sont obligés d'acheter leur collection.
Ce qui vous permet de proposer des nouveaux créateurs également, de ne pas simplement avoir les grandes marques.
Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de détaillants qui ont des stocks qui me contactent par le bouche à oreille. Là, récemment, j'ai une boutique de Saint-Rémy qui a dû fermer parce qu'elle a eu des problèmes financiers, etc.
Oui,
elle
s'est retrouvée
avec un stock. Et elle m'a demandé si je pouvais, elle m'a confié son stock et on s'est mis d'accord sur un prix. Elle a perdu bien sûr par rapport à son prix d'achat parce que moi en gros dans le concept espace Mirabeau, quand un produit vaut 100€ hors taxe, prix de gros, wholesale price, on va dire 260 ou 270, moi je dois le vendre environ 100 ou 120€ TTC.
C'est quoi, c'est moins 60%?
Voilà, minimum.
Minimum, ouais,
minimum,
c'est
moins 60%. Alors, encore une fois, quand c'est
alors, vous alignez sur les ventes privées ou sur tout ça.
Voilà,
quand c'est confié,
on me confie la marchandise, il me faut une remise de moins 50% sur le prix wholesale price.
Ouais.
Si j'achète ferme, à part des prototypes de collection, je peux acheter à ces prix-là parce que c'est le prix que l'agent paye. Mais si j'achète ferme un stock, où il y a des fois des produits, il y a 50% de biens, 30% de moyens et 20% de... Là, j'achète beaucoup moins cher. Mais c'est pas tellement ma philo. Je suis pas un soldeur.
Alors, question indiscrète, qu'est-ce que vous faites des... on va pas appeler ça les restes, mais qu'est-ce que vous faites des restes des soldes? Parce que vous êtes à Outlet. On vient vous voir pour, entre guillemets, vous donner sans banaliser les choses, les restes de leur collection, si vous, il vous en reste, ça revient l'année prochaine ou alors vous passez par un autre intermédiaire ensuite?
Je fais en sorte d'avoir très très peu de reliquats, c'est mon travail d'acheteur, on va dire, efficace. On arrive à vendre 85%, 90% sur chaque opération. On va dire entre 80. Si on rate, on est dans les 70, mais en pondéré et tout cumulé, on finit à 80-85%. Il reste toujours des choses. Alors il y a des choses qu'on peut réintroduire, des basiques, un petit blouson comme celui-là, l'année d'après on peut le remettre, etc. Il y a des chemises, etc. Il y a des produits, surtout quand c'est féminin, on peut pas remettre, les clients ont plus envie de les voir, et là effectivement tous les 2 ans, j'organise un gros déstockage. Alors là c'est vraiment, on va dire, plus qu'à perte, mais bon, ça fait partie...
Alors là vous organisez un déstockage, une sorte de liquidation pour vos clients à vous, ou alors vous revendez à quelqu'un d'autre?
Non, je revends à un soldeur, okay. 1000 pièces à 3 euros, ça fait 3000 euros, c'est que dalle, mais ça me débarrasse.
Ouais, okay.
Aujourd'hui, Stéphane, on se voit au Who's Next. On est le premier jour du salon. On est sur le stand de la Fédération Nationale de l'Habillement. Quel est votre rôle au sein de cette fédération?
Alors, pour moi, c'est une aventure assez récente. J'ai été sollicité donc par Caroline Baron, qui est présidente de la région PACA. Nous nous sommes connus pendant le premier confinement. Voilà, moi je vous avoue que à l'occasion, comme tout le monde, hein, j'étais pas le seul. Quand est arrivé cet événement planétaire et la sidération que ça a provoqué chez tout un chacun, et notamment chez nous, commerçants, détaillants, compte tenu des échéances que nous avions, des stocks que nous venions de rentrer fin février pour une saison qui commençait avec une saisonnalité très forte à Saint-Rémy-de-Provence par exemple, mars, avril, c'est Pâques, c'est des week-ends du mois de mai, etc. Je pourrais reparler de cet épisode parce que j'ai quand même constaté dans les grandes lignes une grande solidarité au sein de toute la profession, à tous les niveaux, entre nos fournisseurs, nous-mêmes, je dirais même les banques, on va dire, enfin les banques encore une fois c'est à relativiser, mais au moment où on avait voilà, tout le monde a, on va dire, s'est un petit peu serré les coudes, et moi je me suis énormément mobilisé pour trouver des solutions à tous les problèmes que je rencontrais qui étaient totalement inédits. Donc j'ai appelé le greffier du tribunal de commerce pour savoir quels étaient les risques de tel ou tel litige avec un bailleur par exemple. J'ai appelé la Fédération nationale de l'habillement, j'ai appelé Caroline Baron et on a eu plusieurs échanges très très constructifs. Elle a été très 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 disponible à l'occasion de nos échanges et donc ça a créé des liens entre nous. Moi j'étais à un moment donné un peu découragé parce que j'avais 4 banques. Alors, je me rends compte dans le domaine des banques, j'avais une banque avec qui j'avais historiquement 4 banques, mais j'en avais qu'une avec qui avait 100% de mes mouvements et de tous mes volumes de toute mon activité, et cette banque voulait que les 3 autres banques participent au PGE, le fameux prêt qu'il fallait contracter pour pouvoir payer nos fournisseurs. Et mes 3 autres banques m'ont dit bah, écoutez, on ne travaille plus ensemble, les comptes sont ouverts, mais vous avez tous les mouvements sur le CIC, il faut aller voir le CIC. Et donc j'ai nommé le médiateur du crédit, j'ai trouvé des solutions, mais Caroline Baron m'encourageait à chaque fois en me disant tu vas y arriver Stéphane, je suis sûr que tu vas y arriver, je sens ta détermination, etc. Effectivement, j'y suis arrivé et donc j'ai résolu tous mes problèmes. Donc ensuite, au bout d'un an, on va dire, Caroline un jour m'a téléphoné, m'a dit voilà, est-ce que ça t'intéresse de t'impliquer? Alors il est vrai que moi, j'aime bien rendre service, je suis à l'écoute des problématiques des uns et des autres, on m'a parfois aidé dans la vie, je pense qu'aujourd'hui à mon tour aussi de renvoyer l'ascenseur quand c'est possible. Donc voilà, je me suis impliqué dans cette chaîne de solidarité qui permet donc à la fédération de donner de la visibilité à nous commerçants indépendants. Comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, avant notre enregistrement, je crois, aujourd'hui on entend beaucoup les grandes chaînes, les grands groupes, etc. Or, le commerce indépendant, les détaillants sont, je crois, on l'a vu d'ailleurs à travers cette période Covid, des lieux de lien social, d'échange. On est générateur d'emplois, on représente un nombre important de salariés et je crois qu'on a un rôle important, notamment aussi au sein de la vitalité des centres-villes, Donc tout ça, voilà, ça m'a permis de, aussi de repenser mon métier, de le revoir avec un peu de recul et de me rendre compte qu'on a, on a un rôle, je pense, important. D'ailleurs, à travers la fédération, je représentais la fédération lors de du lancement des Assises du commerce à Bercy. Et le ministre Bruno Le Maire, comme Alain Griset, à l'époque ministre des TPE, PME, était totalement conscient du rôle que pouvaient avoir les commerçants indépendants dans les centres-villes, et que leur disparition d'ailleurs est très problématique, quand parfois, parce que nos difficultés ne sont pas négligeables non plus. Hein. Voilà, c'est quand même la ligne de crête pour pouvoir réussir un projet. Moi, si quelqu'un venait me voir en me disant « j'ai envie de m'ouvrir des magasins de vêtements », je lui dirais pas « vas-y, fonce ». Je lui dirais « voilà quelles sont les conditions, voilà quel est... comment il faut aborder le sujet ?»
Justement, parlons-en. Est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations pour quelqu'un qui souhaite devenir détaillant demain ? Qu'est-ce que vous lui diriez ?
D'abord, j'évaluerais la capacité peut-être de la personne à me décrire son projet. Voilà, parce que chaque projet est assez unique. Alors bien sûr, si quelqu'un me dit « je vais ouvrir une franchise », bon, après, il y a des ratios, il faut étudier, pourquoi pas. Il y a sûrement des franchises qui vont très bien, mais quand on veut être commerçant indépendant, par nature, on est assez unique. C'est-à-dire, on a un emplacement à un endroit, on fait sa propre sélection, on a sa propre équipe, son propre management. Je dirais que, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, mais d'abord, je pense qu'il faut s'appuyer sur une équipe, soi-même ou autour de soi, vraiment impliqué et dont le sens de l'accueil sera une donnée essentielle. C'est-à-dire qu'une clientèle, ça se fidélise aussi par le service. On n'est pas simplement des vendeurs de vêtements. On crée des liens avec nos clients. Je vous dis ça d'autant plus que moi, je ne suis pas personnellement dans mes magasins. Mais c'est ce que ça n'a jamais été mon rôle, en fait. Ça n'a jamais vraiment été plutôt dans la gestion, Mais c'est comme ça que je recrute et c'est comme ça que je transmets, que j'insuffle à mes collaboratrices. Moi, un grand sourire quand on rentre dans un magasin, c'est primordial. Donc déjà, je commencerai par là. Ensuite, bien sûr, il faut avoir un petit peu de goût et il faut essayer de créer un univers. Il faut apporter quelque chose, surtout qu'aujourd'hui, il y a une concurrence très importante, à savoir, bien sûr, les ventes en ligne. Et puis, on ne nous attend pas, quoi. Hein. C'est-à-dire que... On n'a jamais vu quelqu'un qui a dit « je sais pas où acheter des vêtements ». Voilà, on a l'embarras du choix, on va dire. Donc, ce qu'il faut, c'est apporter quelque chose de plus. Et c'est là où, quand je dis avoir du goût, en tout cas avoir un certain goût, et je pense qu'un univers compte beaucoup. C'est-à-dire, si quelqu'un venait vers moi, si c'est une personne, je vois que dans son intérieur, qu'elle sait... elle a un certain talent, parce que on est dans un domaine très très la mode, c'est quand même on est dans une forme de subjectivité de artistique même quelque part, hein, c'est donc on n'est pas c'est, on est on vend pas des de l'utilité, même si on doit s'habiller tous les matins. Il faut aussi un peu de trésorerie. Je pense que il faut être un peu confortable en termes de trésorerie, parce que c'est pour pouvoir financer ses stocks, pour pas être angoissé, pour pouvoir permettre au chiffre d'affaires de se construire progressivement. Bon, il y a aussi beaucoup de... Il faut être gestionnaire. Il faut être... Et puis aujourd'hui, il y a aussi d'autres outils. Il faut savoir manier les réseaux sociaux, faire de la vente aussi, la vente en ligne éventuellement. Ça, c'est un domaine dont on peut reparler. Je pense que c'est un défi, mais c'est pas donné à tout le monde. Contrairement à ce qu'on dit à tous les détaillants, il faut se mettre sur la vente en ligne. Moi, je pense que la petite boutique de province, et d'ailleurs, ça a été très bien dit aussi par les ministres aux Assises du commerce, ça peut être une machine à perdre de l'argent, la vente en ligne.
Oui, on l'entend souvent dans notre podcast, c'est un métier différent. La vente en point de vente physique, indépendant, et la vente sur le digital, c'est quand même pas les mêmes métiers. Beaucoup de détaillants nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés par soit des alternants ou des profils propres au digital. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, on a bien entendu les conseils. Merci beaucoup pour ce premier épisode en direct du Who's Next sur le stand de la Fédération. Et puis alors, bonne visite du salon et bon salon.
Avec plaisir, merci infiniment, merci à vous
Stéphane.
Deux. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.